Frères et sœurs en Christ, le Christ nous accueille ce soir comme il avait accueilli autrefois ses disciples poussiéreux et fatigués pour un repas de délivrance et d'espérance. La paix du Père, l'amour du Fils et la consolation de l'Esprit nous sont offerts comme à des invités accueillis par le maître de maison. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, cinquième jour de la Passion de notre Seigneur, depuis qu'il a fait son entrée glorieuse dans Jérusalem. Ce jour est capital. En effet, le jeudi et le vendredi sont très importants, car ils nous font basculer de l'ancienne alliance à la nouvelle. C'est grâce à ce qui s'est passé ces deux jours que, je me répète, nous sommes passés de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous aurons l'occasion de l'observer au cours de ces deux jours. On y voit l'accomplissement en Jésus-Christ des promesses faites par l'Éternel depuis des siècles. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul a pu écrire « Christ est notre Pâque qui a été immolé ». Particularité de cette journée, Jésus est seul avec ses disciples. Il ne rencontrera plus les foules. C'est en toute intimité qu'il passe ses derniers moments avec les siens. Moment des confidences de celui qui va bientôt quitter les siens. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Nous sommes réunis ce soir pour faire mémoire du dernier repas du Christ. Contrairement aux autres années, nous ne pourrons pas vivre ensemble la Sainte Cène. Confinement oblige. Nous allons donc faire mémoire. Mais faire mémoire n'a rien à voir avec une simple évocation du souvenir. Mais c'est se rassembler en son nom et chanter en sa présence, cette présence qui est mystérieuse mais réelle, au milieu de nous. Faire mémoire de Jésus le Christ, c'est laisser la parole de Jésus de Nazareth nous saisir dans notre existence ici et maintenant et nous mettre en marche dans la même trajectoire que lui-même. C'est annoncer que sa mort et sa résurrection ouvrent un sens pour tous aujourd'hui. Que sa mort et sa résurrection concernent notre façon de vivre et notre façon de mourir aujourd'hui. C'est espérer grâce à Jésus le Christ que tous les passages par l'écrasement et toutes les traversées de nuit ne sont que des traversées et que des passages. Je vous invite, avant d'aller plus avant, à prier ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous rassembles par médias interposés en ces derniers jours de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous voyons ce que signifie aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, aimer jusqu'à la perfection, aimer jusqu'à la mort. Fais, ô Dieu, que d'un si grand mystère, nous recevions la vie et l'amour dans leur plénitude, par lui, Jésus, notre Seigneur. Amen. Thank you. Nous avons le privilège d'écouter la parole de Dieu, mais auparavant, demandons que le Seigneur lui-même puisse nous éclairer par son Esprit. Seigneur Dieu, notre Père, ouvre par ton Esprit Saint notre entendement afin que ton Esprit Saint éveille nos cœurs et nous conduise dans la vérité, qu'il nous instruise, nous éclaire, nous console et nous sanctifie pour la vie éternelle. Reçois notre prière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples viennent dire à Jésus : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Voilà la question que les disciples posent à Jésus. Jésus, tout comme un bon juif, célèbre la fête de Pâques. Quel sens avait cette fête ? Un simple rituel ? Ou y avait-il un sens nouveau à donner à travers cette fête ? Une chose est sûre, la Pâque est bel et bien ancrée dans l'Ancien Testament. Nous écouterons donc la première lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, les versets 1 à 14, et le chapitre 14, les versets 10 à 31.
Première lecture, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Deuxième lecture, nous lisons. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens ! Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi s'écrie ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit, et il se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens, depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel, et en Moïse, son serviteur. Amen.
Ainsi, pour sauver son peuple pris sous l'étau de l'esclavage du puissant Pharaon, Yahvé décide de frapper l'Égypte des 10 plaies. À chacune des plaies, Pharaon semble céder, mais à chaque fois aussi il endurcit son cœur. Jusqu'à la 10e plaie qui va frapper tous les premiers-nés dans le pays. Pour être épargné, Dieu ordonne à son peuple qu'un agneau ou un chevreau soit égorgé et que son sang serve à enduire les linteaux des portes afin que soient épargnées les maisons portant le sang lorsque l'ange de la mort passerait. Les Israélites devaient être debout cette nuit-là, le bâton à la main, dans l'attitude des gens prêts à partir, car s'attendant à une délivrance. L'agneau ou le chevreau était rôti tout entier. Il était mangé avec du pain sans levain et des herbes amères. Le sang répandu évoquait l'expiation. Les herbes amères symbolisaient les souffrances de la servitude, le pain sans levain représentait la pureté. Dieu ordonna donc que soit célébrée cette délivrance qui vit son plein accomplissement lors de la traversée de la mer Rouge. La fête juive de la Pâque, la Pessa, célèbre un événement fondamental, fondateur dans l'histoire d'Israël, l'Exode, c'est-à-dire la sortie d'Égypte où les Hébreux avait été réduit en esclavage par le puissant Pharaon. Ce dernier, dans sa volonté de puissance, avait fini par considérer les esclaves comme sa propriété. De manière générale, le puissant dominateur accapare l'autre à son profit. Pharaon incarne dans le récit de l'Exode, et du chapitre 14 en particulier, la puissance violente qui ne tolère aucune limite et qui va jusqu'au bout dans sa volonté de mainmise sur un peuple qu'il réduit en esclavage et opprime jusqu'à vouloir lui dénier tout avenir en le privant de ses enfants. Il est le type de l'agresseur lancé à la poursuite de sa proie en vue de la capturer. Ce que symbolise l'Exode 14, c'est que face à la puissance du mal qui enserre sa victime et cherche à la servir, à l'accaparer ou à l'engloutir, le Seigneur se révèle comme un guerrier victorieux. Il élimine le mal en déployant sa force pour libérer la victime de l'oppresseur, tout en lui assurant une présence de pasteur qui guide, qui protège et qui rassure. Si le Seigneur est l'acteur principal de la victoire, cela ne signifie pas que la victime reste inactive. Le salut est comme le résultat d'une synergie entre le Seigneur, le peuple et Moïse. Le peuple met sa confiance dans une parole du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Il ose risquer son existence dans la mort, traverse sa peur en croyant que Dieu est vie dans la mort. Dans ce passage, dans la mer qui représente le lieu de tous les dangers, lieu de la mort, comme celle qui avale ses victimes et les anéantit par engloutissement, la libération apparaît comme une nécessaire, une naissance au creuset de la mort, passage de la peur à la foi, du cri à la louange. La Pâque, nous sommes toujours dans cet enracinement de la Pâque dans l'Ancien Testament, la Pâque commémore la délivrance donnée par Dieu, le passage de l'esclavage à la liberté. La nuit pascale est décrite dans la Mishnah, qui est le code de loi du judaïsme, comme le point culminant de l'intervention de Dieu parmi les hommes. Et je cite cet extrait de la Mishnah, « Il nous fit passer de l'esclavage à la liberté, de la détresse à la joie, du deuil à la jubilation, des ténèbres à une grande lumière, de la servitude à l'affranchissement. » Fin de citation. Cet événement n'est pas seulement évoqué ou rappelé à l'occasion de la fête. Il est réactualisé, rendu présent pour tous les convives. Il faut que chaque Israélite sache que c'est lui qui a été délivré de la servitude. Tous les participants deviennent les contemporains de la libération. Le passé rejoint le présent. Ainsi donc, Dieu paraît comme celui qui délivre, comme celui qui est grand. Oui, Dieu est grand et mérite d'être célébré comme le libérateur qui a accompli des œuvres grandes et merveilleuses. Voilà pourquoi je vous invite à chanter « Grandes et merveilleuses sont les œuvres de Dieu ». J'aime 414.
Sur tout le monde, Dieu d'Israël.
avec les mots du psalmiste. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une promesse éternelle. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Amen. Le soir, lorsque l'heure fut venue, Jésus traverse la ville tumultueuse avec son petit groupe de disciples. Après l'inquiétude de ce passage, le Christ peut être reconnu, une échauffourée peut éclater à tout moment. Dans cette atmosphère de complot, voici la paix du Cénacle. On va manger la dernière Pâque figurative, après plus d'une décennie de siècles d'institutions. Écoutons ces deux lectures dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, les versets 17 à 29, et 1 Corinthiens 11, 23 à 26.
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. »
Si Jésus a partagé son dernier repas à la veille de la semaine pascale, c'est pour inscrire sa propre histoire dans celle de la libération de Dieu, comme celui que préfigurait la Pâque juive. le vrai libérateur de la création tout entière, c'est lui. Il est celui qui libère de l'esclavage spirituel du péché, du monde et du diable. Au cours de ce repas de Pâques, dans la continuité avec l'Ancien Testament, Jésus introduit une nouveauté de taille. Avec lui commence une nouvelle alliance. Il dira au cours de cette soirée, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Le lendemain, lorsqu'il donnera sa vie et que le voile du temple sera déchiré, ce sera la fin des sacrifices d'animaux en vue du pardon des péchés, car il va entrer dans le vrai sanctuaire avec son propre sang et met ainsi fin à des siècles de préfiguration du pardon. Ça vaut la peine de penser quelques instants au sens de la scène qu'il va instituer ce soir. Sans épuiser le sens de la scène, mentionnons quatre points. Le premier, c'est la scène, la vivre, c'est annoncer la mort du Seigneur. En effet, le pain représente le corps, le vin représente le sang. Et le pain rompu et le vin sont le signe d'une mort violente, volontaire, sacrificielle, gage de notre salut. Prendre part à la scène, c'est annoncer la mort du Seigneur, comme disait l'apôtre, jusqu'à ce qu'il vienne. Cela signifie que tous ensemble, publiquement, nous confessons que toute notre confiance de vie et de salut est dans la mort du Seigneur. Deuxièmement, la scène, c'est célébrer Dieu avec des actions de grâce. En célébrant la scène, nous nous rappelons la grande bonté de Dieu envers nous et cela induit des actions de grâce. Troisièmement, vivre la scène, c'est aussi une exhortation à l'unité, à l'amour et à la paix. Nous sommes un même corps, nous tous qui participons à la scène. En mangeant le pain, nous communions au corps de Christ. Christ est un avec nous et nous avec lui. L'unité ici, représentée par le pain, ce dernier est fait de plusieurs grains de blé qui sont tellement mêlés et fondus ensemble qu'on ne pourrait discerner ni séparer l'un et l'autre. Cette prise de conscience de notre unité doit avoir des incidences concrètes dans la vie communautaire. À savoir, aucun frère, aucune sœur ne peut être méprisé, rejeté, violé, blessé, d'aucune manière, par nous. Le faire, c'est mépriser, rejeter, violer, blesser Jésus-Christ lui-même. Nous passons à côté de la signification de la scène si nous y voyons uniquement l'union avec Christ, mais pas avec les autres membres. Jésus est aimé à travers nos frères et nos sœurs. Prendre part à la scène, c'est nous engager à aimer les autres jusqu'au sacrifice de nous-mêmes. Et puis un dernier point à relever pour donner le sens de la scène, c'est vivre dans une attente confiante du retour du Seigneur. En effet, Jésus-Christ lui-même avait en vue le jour où il boirait de nouveau la coupe avec ses disciples dans le royaume de Dieu, à cause de tout ce qu'il vient de faire, à travers le don de lui-même. Ne pensez-vous pas qu'il mérite notre louange, notre adoration? Eh bien, je vous invite à chanter ensemble « Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix, nous élevons nos voix pour te louer et pour t'adorer. J'aime 300.
Vers toi, Seigneur. So
Les disciples ont une grande préoccupation dans leurs esprits alors qu'ils sont avec le Maître. Et ils se demandent qui est le plus grand entre eux. Mais Jésus leur posera la question après la lecture de ce passage ou à travers même le texte que nous allons lire. Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? Nous allons donc écouter maintenant Jean 13, 3 à 20. C'est le lavement des pieds.
Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qui va le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, je suis maître et seigneur. Alors si moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître, l'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. » Maintenant, vous savez tout cela, vous serez heureux si vous le faites. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais ce qui est écrit dans les livres saints doit se réaliser. En effet, on lit « Celui qui partageait ma nourriture est devenu mon ennemi ». Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez que je suis. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé.
Que pourrons-nous tirer de ce texte ? Le Seigneur Jésus pose un geste fort. Je pourrais même dire très fort. Parce qu'il troque le manteau contre le tablier. Ce soir-là, les disciples sont rassemblés autour de Jésus pour leur dernier repas pascal. Une ombre inquiétante recouvre l'avenir immédiat. L'ombre de la trahison, de l'agonie, du procès, de la condamnation et de l'exécution. Jésus se lève, troque son manteau pour un tablier et lave les pieds de ses amis. Arrivé au niveau de Pierre, Pierre proteste avec véhémence. La surprise ne réside pas dans cette révolte bruyante, mais dans le silence docile de tous les autres. Car le geste de Jésus est, à strictement parler, scandaleux, contraire à tous les usages et à toutes les règles en vigueur dans la Palestine de ce temps. Laver les pieds des convives avant le repas est un travail réservé aux esclaves. Or, Jésus est le maître. Le rabbi se fait volontairement esclave. Qui oserait accepter cela sans rien dire? On peut comprendre Pierre. « Toi, Seigneur, me laver les pieds !» Le cri de Pierre relève du bon sens. Non seulement Pierre dit ce qu'il pense, mais sa position est à la fois juste et raisonnable. Le bon compagnon n'accepte pas tout de son maître. Les lèvres closes et les yeux fermés, ce sont les idoles que l'on adore et les gourous que l'on suit n'importe où sans sourciller. Pierre sait d'expérience que Jésus l'écoute. Il espère le ramener à la raison. Jésus, du reste, ne le rabroue pas. Il ne cherche pas à expliquer pour convaincre. Il ne propose pas à Pierre une intelligence de son geste. Il dit tout simplement « Tu comprendras plus tard ce que je fais. Tu saisiras plus tard jusqu'où conduit l'accomplissement de l'acte que moi j'accomplis aujourd'hui. » Il existe des vérités qui ne sont bonnes à dire que le jour où le vis-à-vis est en mesure de les comprendre. Ces mots n'ébrèchent pas la conviction de Pierre. En effet, il dit « Me laver les pieds à moi ? Jamais !» C'est-à-dire « Toi, mon maître, tu ne seras jamais mon esclave. » Le cri de Pierre est non seulement légitime, mais courageux. Il existe une judicieuse pratique du devoir de désobéissance. Mais écoutons la réponse de Jésus, parce que Jésus non plus ne désarme pas. Jésus entend Pierre, mais il ne veut pas l'écouter. Entrer dans le mouvement, encore une fois très logique de l'un de ses apôtres préférés, l'obligerait en effet à s'écarter de sa propre démarche, celle dont il prend en ses heures d'ombre une conscience de plus en plus aiguë, celle qui va le broyer tout entier. Lui qui ne veut perdre aucun des siens, même au bord de l'abîme insondable du mal, décide donc de toucher Pierre au plus sensible, là où cet écorché vif de la foi ne saurait résister. « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir part avec moi. » À ce point du discours, le dialogue se disloque car les propos ne se rencontrent plus. Ils deviennent parallèles. Toute rencontre, on le découvre ici, ne promet pas automatiquement la fécondité de l'échange. Le partage ne va pas de soi. On peut se parler sans que les mots impriment ipso facto leur trace au cœur de l'autre. Il ne reste alors à ces mots que la chance de ressusciter, un jour peut-être. Le dialogue s'achève. Pierre ne dit plus rien. Il est trop bouleversé. C'est le temps de l'écoute après celui de l'échange. Jésus a le souci que les choses soient tout à fait claires, que ses amis ne se méprennent point sur le geste qu'il vient d'accomplir. Et Jésus va donner le sens à ce qu'il vient de faire, parce que finalement, il a lavé les pieds à tout le monde. Et voici comment Jésus veut conclure ce temps, ce geste de lavement des pieds. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Par le geste radicalement subversif du lavement des pieds, Jésus remet en question le pouvoir tel qu'il est pratiqué en son temps. Mais l'est-il autrement aujourd'hui? Pour lui opposer le pouvoir qui plaît à Dieu. En prenant lui le maître et le seigneur la place de l'esclave dans une société où l'esclavage était courant et légal, Jésus affirme qu'il ne suffit pas à un pouvoir de s'affirmer serviteur pour qu'il le soit. Aussi sincères soient-elles, les déclarations d'intention ne suffisent pas. On ne devient serviteur que par la pratique assidue du service des autres et des pauvres en priorité. La conception du pouvoir qui illustre le lavement des pieds ne condamne pas simplement la tyrannie, la dictature, le despotisme. Le geste de Jésus interroge tous les pouvoirs et leurs pratiques. Il ne suffit pas d'avoir été choisi le plus démocratiquement du monde ou selon les règles écrites ou coutumières d'une institution pour que ce pouvoir plaise à Dieu. Tout réside dans la manière d'exercer ce pouvoir, dans la qualité du service. Mesure à ce baromètre, existe-t-il un pouvoir, à quelque niveau que ce soit, et de quelque obédience qu'il provienne, qui n'ait à se remettre en question? Comment alors concrètement? Jésus insiste, ou c'est plutôt moi qui remets cette phrase en évidence. Vous avez vu ce que j'ai fait. Si vous le faites, vous êtes heureux. Si vous le faites, vous êtes heureux. Ce que nous venons d'entendre, c'est le testament de Jésus. Dans quelques heures, il va mourir. Il va quitter les siens. Que leur laisser d'essentiel, c'est ce qu'ils considèrent comme de la plus grande importance qu'il va leur dire de manière solennelle. Aimez-vous les uns les autres, faites ce que je vous ai dit. Nous aimons beaucoup entendre les paroles, nous aimons aussi en délivrer. Mais tant qu'on est dans l'écoute, on n'a encore rien accompli. Est-ce une banalité que de dire cela? Hélas, l'Église est pleine des gens qui écoutent sans entreprendre. Pourtant, Jésus a dit, « Celui qui écoute et ne met pas en pratique, je le compare à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont rués contre cette maison. Elle s'est écroulée. » Et grande fut sa ruine. Voilà, c'est net. Un homme qui a de la chance de savoir qu'aimer, c'est vivre et qui ne met pas ses mots en pratique est un insensé. Bien-aimés, n'aimons pas en parole et de bouche, mais en acte et en vérité, a dit l'apôtre Jean. Pourquoi? Mais pourquoi restons-nous dans les mots? Il faut s'acharner sur cette anomalie qui fait que les chrétiens, malgré les avertissements répétés de Jésus, sont des écouteurs modèles, mais des réalisateurs médiocres, attentistes. Parce qu'ils se réfugient bien souvent. Oh, il y a beaucoup de choses, mais j'en relève seulement deux aujourd'hui, dans la discussion. Ils se logent dans la discussion. Aime ton prochain, dit Jésus. Et voici que le légiste saute sur l'occasion et dit « Mais qui est mon prochain ?» Et puis commence la belle petite discussion. Ce légiste, un monsieur très bien, il est sérieux. Et quand on lui aura développé la théorie du prochain, un homme, dit Jésus, descendait de Jérusalem à Jéricho. Et Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Casser le grand débat théorique. Jésus mène droit à des actes. Les discours sur les différents genres de prochains, sur les différentes manières d'aimer le prochain, ça aide à ne pas bouger le petit doigt. Mais voici un homme concret qui, dans une situation précise et par des actions efficaces, est le prochain. Renversement prodigieux, sans théorie. Partout où tu seras, dit Jésus, essaye-toi d'être le prochain de tout homme et tu ne te poseras plus de questions désengagées. Tu as vu ce que ce Samaritain a fait ? Va et fais de même. Il faudrait maintenant relire tout l'Évangile pour voir comment Jésus engage immédiatement la parole dans ce qu'il faut être et dans ce qu'il faut faire. Pensons à sa présence au cours de nos débats. Il doit souvent attendre que nous arrêtions de discuter pour que nous puissions passer à l'acte. Le deuxième refuge, c'est la dérobade. Ça ne m'avait jamais gêné de dire, raconte quelqu'un dans la prière que le Seigneur nous a donnée, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ah, c'est beau! J'aime beaucoup une réponse de Jésus. Il faut pardonner 70 fois 7 fois. C'est sublime. Mais voici que moi, aujourd'hui, j'ai à pardonner. Une seule fois. Mais quelle fois? Je ne pourrai pas. C'est évident. Je ne peux pas. Elle était très bien comme parole loin de l'acte. Mais maintenant, je suis devant l'acte. Ma volonté sincère de mener une bonne vie chrétienne me rendait heureux, paisible. Heureux d'avoir la foi, de croire en Jésus, de vouloir aimer tout le monde. Puisque je sais ce que je dois faire, pourquoi je ne le fais pas? Il faut reconnaître que bien souvent, nous sommes retenus de bien faire par des chaînes de l'orgueil, de l'égoïsme, de la nonchalance, de la peur. Ces chaînes ne nous gênent pas quand nous sommes dans l'écoute et dans les rêves d'idéal. Nous les sentons dès qu'il faut passer aux actes. Et elles nous paraissent alors si fortes que nous en restons aux belles paroles. À l'occasion de cette semaine sainte ou en route vers Pâques, voilà qui nous dit encore notre besoin de la grâce de Dieu. Pour que ce que Jésus a accompli ne soit pas tout simplement des faits à évoquer parce que passé, mais des choses à vivre aujourd'hui encore. Puisse-t-il nous venir en aide et nous aider à faire ce que nous savons pour sa gloire. Je vous invite à chanter ensemble le roi serviteur qui est venu jusqu'à nous, quittant la gloire de son ciel. J'aime 553, les strophes 1, 3 et 4. Écoutons une dernière lecture dans Matthieu 26, les versets 30 à 56. Matthieu 26, 30 à 56.
Ils chantent les psaumes de la fête, ensuite ils vont au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit vous allez tous m'abandonner. » En effet, dans les livres saints, on lit « Je vais tuer le berger et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. » Jésus ajoute « Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. » Pierre lui dit « Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répond « Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. » Pierre lui dit « Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. » Et tous les disciples disent la même chose. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant une heure ? Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore et pour la troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment. » Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyons l'homme qui me livre est arrivé. » Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12 apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit « L'homme que je vais embrasser, c'est lui, arrêtez-le. » Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrasse. Jésus lui répond « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée, il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce que les livres saints disent ne se réaliserait pas. En effet, ils disent que les choses doivent se passer de cette façon. Ensuite, Jésus dit à la foule, vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais pourtant. Vous ne m'avez pas arrêté. Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant.
Après la scène, vient le long discours de Jésus. Il faut relire mot à mot, dans le silence et le recueillement, ce qui est le sommet de toute la Bible, les confidences et l'intimité de Dieu. Révélation de ce Père qui est la grande passion religieuse de la vie de Jésus. Promesse de l'Esprit Saint qui nous introduira dans l'œuvre tout entière du Christ. La claire parabole de la vigne, le commandement de l'amour, toute la transcendance de la religion chrétienne s'affirme en termes simples et sacrés. Cela se termine par la prière sacerdotale du Christ pour l'unité. Dieu Trinité, tout en tous dans la joie, dans l'amour et dans la gloire éternelle. À la fin de ce repas pascal, Jésus prit les psaumes prescrits, c'est-à-dire les psaumes 113 à 118 et le psaume 136. Rien ne sera oublié ni méconnu. Le soir est tout à fait tombé quand le maître quitte le cénacle accompagné de la petite troupe des apôtres, sauf Judas bien sûr. Ils traversent le torrent sec du Cédron et parviennent au jardin de Gethsémané. Tous ces derniers gestes, quelle simplicité ils ont, et pour nous, quelle importance. C'est dans la nuit avancée que le Christ subit son agonie. Elle a pu durer longtemps, cette agonie. Luc note la sueur de sang et le merveilleux ministère de cet ange envoyé pour réconforter le Sauveur. On peut imaginer avec quel respect et quel amour il a dû s'approcher du Fils de Dieu, cet ange, notre compagnon de service. Jésus répète trois fois sa prière d'acceptation. Voilà la liberté du Christ et son amour. Que dire face à un tel amour? Nous voulons exprimer à notre manière cet amour pour ce Seigneur qui s'est donné jusqu'au bout pour nous, en chantant « Quand j'ai vu tes mains, j'aime 203 ». Seigneur, tu nous as laissé un mémorial perpétuel de ta passion et tu as voulu que ton corps et ton sang donnés pour nous sur la croix nous soient un aliment de vie éternelle. Fais-nous cette grâce que chaque fois que nous prenons part à ta table, nous communions à tes souffrances. Seigneur Jésus-Christ, tu as enduré en un jour semblable les angoisses et l'agonie de Gethsémani. Ce sont nos péchés qui ont causé tes souffrances. C'est sous le poids de notre faute que que tu as fléchi et que tu fus triste jusqu'à la mort. Nous t'en prions, inspire-nous l'horreur du mal qui t'a fait souffrir. Apprends-nous à veiller et à prier avec toi, afin d'être gardés à l'heure de la tentation. Merci de nous exaucer. Et nous voulons recevoir maintenant la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen.